Femmes d'ici et d'ailleurs est une symphonie de portraits audio née du cœur battant de la Maison des Femmes de Bordeaux. Des femmes qui dévoilent les douleurs et les colères qui les habitent, mais aussi les rêves et le courage qui les animent. Un projet où la parole est donnée à celles que l'on n'entend pas, une archive vivante de celles qui ont traversé la Maison des Femmes et un hommage au rôle vital du secteur associatif dans leur parcours. Un plongeon dans ces histoires intimes où chaque voix porte l'écho d'une vie riche et complexe, tissée de résilience et d'espoir.
J'ai ma musique quand j'étais petite, trois jolis tambours qui revenaient de guerre, trois jolis tambours qui revenaient de guerre hier en rentemplant. C'est ma chanson préférée, mais je ne me rappelle pas du reste. Je me présente, je m'appelle Nazia Kevdani et je viens du Maroc, de Casablanca. Je suis venue pour l'harcèlement de mon fils. Il était dans une école française. Il était très harcelé parce qu'il avait une maladie qui était très grave. Il a fait 4 opérations intestinales. Et quand je suis venue ici, heureusement que j'ai rencontré son prof principal. Elle m'a dit, madame, votre fils, quand il va partir au lycée, ils vont le virer de l'école. J'étais déçue. Elle m'a dit, si vous restez ici, ça va être très bien pour vous. Je lui ai dit, je ne peux pas rester ici parce que je n'ai pas les papiers et tout. Elle m'a dit, madame, votre fils, il va être viré de l'école. Il ne sait pas parler l'arabe. Vous allez le ramener dans quelle école? Il n'y a aucune école qui va l'accepter. C'était au Maroc et j'ai rencontré son prof principal à Paris. Je suis venue à Paris parce que moi, à chaque fois que je fais une opération au Maroc, je viens en France pour voir l'opération, est-ce qu'elle est bien passée ou pas. Parce que je n'avais pas confiance. Tellement que j'étais très, très malheureuse avec mon fils, le pauvre. Il est né à 9 mois, à 10 mois. Il était à la salle d'opération. C'est ça qui m'a fait très peur. Il était à Louis-Massignon. C'est une école française. Et pourquoi moi, j'ai préféré l'école française? Parce que sa sœur, elle était déjà dans une école française. Alors, quand elle passe sa sœur, elle laisse la place à son frère. Je m'estime heureuse parce que moi aussi, j'étais dans cette école. Ça m'a donné l'éducation, ça m'a donné la sincérité, j'étais bien éduquée et tout. C'est pour ça que je voulais que mes enfants ils soient dans la même école que moi, qu'ils soient bien éduqués. Alors, lui, malheureusement, il est tombé dans un malheureux moment de harcèlement. Moi, j'étais dans mon école, je n'étais jamais harcelée. Ma fille aussi, la même chose. Et lui, le pauvre, il est tombé dans un moment de harcèlement. Il était malade, il était très harcelé. Les voyages, il est avec les profs. Il ne le laisse pas faire avec eux les activités de sport. Le pauvre, il est toujours hospitalisé. Quand il sort de l'hôpital, il vient à l'école, il commence à rigoler sur lui. Quand il rentre aux toilettes, ils le suivent pour lui tirer son zizi. Vraiment, c'était de l'harcèlement qui était très, très catastrophique. Alors son prof, elle n'a pas pu me parler à l'école. Quand on s'est rencontrés à Paris, c'est là qu'elle m'a raconté tout. Qu'elle m'a raconté. J'étais déçue quand elle m'a raconté. Je ne savais pas. Le garçon, quand il est en vacances, il est très heureux. Le premier jour qu'il va à l'école, il est très malade. Il rentre même à l'hôpital. Et moi, je ne savais pas qu'il était harcelé. Quand je lui dis « qu'est-ce que tu es ?», il me répond pas. Il me dit « non, maman, c'est rien du tout ». C'est pour ça que je l'ai inscrit ici. Après, quand on est passé les vacances, il est tombé dans un trou, il s'est arraché tout le doigt. Il était opéré ici. Après, le médecin, il m'a dit « madame, ne bougez pas d'ici ». Jusqu'à que l'enfant, son doigt, il bouge. C'est pour ça que je suis restée ici. Sinon, moi, je ne resterai pas ici. C'est le destin qui m'a mis ici. Il m'a bloqué ici. Et je ne savais pas que je devais prolonger mon visa. Si je savais que je devais prolonger mon visa, je vais partir prolonger mon visa et je ne resterai pas ici. C'était en 2016. Le jour où il me restait un jour dans mon visa, là, j'ai su que je devais renouveler mon visa. Prolonger mon visa. Quand je suis partie, elle m'a dit, ça y est, madame, c'est le dernier jour, on ne peut pas. Vous devez venir une semaine avant que votre visa elle s'expire. Ils veulent pas rallonger mon visa. C'est pour ça que je suis restée ici sans papier.
Thank you.
J'avais pas de papier. J'avais pas de papier, ni moi, ni mon fils. On est resté un an à Paris. On a fait la misère de tout le monde. On habite avec les gens. Il y avait ma fille qui m'envoie 300 euros pour mon loyer. Je paye le loyer, je fais le ménage, je fais à manger. Et quand les gens, ils sont en congé, ils nous mettent à la porte. J'ai habité avec 3 personnes à Paris. J'ai habité la première fois 3 mois, la deuxième fois 4 mois, la troisième fois 6 mois. Et après, on est venu à Bordeaux. Quand on est venu à Bordeaux, on a dit ouais, à la famille. C'est la famille qui m'ont ramené à Bordeaux. Quand je suis venu à Bordeaux, encore à Bordeaux, même la rue, j'ai dormi 20 jours dans la rue. Mon fils, il a été opéré pour les testicules à l'hôpital. Ils nous ont fait sortir à 9 heures du soir à l'hôpital Saint-Augustin. Ils nous ont fait sortir à 9 heures du soir. De 9 heures du soir, je les ai suppliés. On n'a pas où habiter. On est que dans la rue. Ils m'ont dit, madame, on ne peut pas. On est sorti à 9 heures du soir dans la rue. Le lendemain, l'infirmier, quand il est venu, il a pleuré quand il nous a vus dans la rue. Il m'a dit, madame, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'infirmier, le pauvre, qui nous a ramenés chez lui pour faire les soins à mon fils. Il m'a dit, je ne peux pas lui faire les soins ici dans la rue. Je vais vous emmener chez vous. On est resté 20 jours chez l'infirmier. Il m'a donné sa clé, il m'a dit, madame, vous partez chez moi le matin, comme ça vous êtes à l'abri toute la journée, moi je ne suis pas à la maison. Et le soir, je viens, je fais le soin au petit, et je vous emmène où je vous ai trouvé la première fois. Chaque jour, jusqu'à ce qu'on a fini les 20 jours. C'était très difficile, moi je n'ai jamais été dans la rue. Moi, je trouvais les gens dans la rue, je les fais rentrer chez moi. Comme au moins un jour je tombe dans la rue. J'ai jamais souhaité ou je souhaite à n'importe qui d'être dans la rue. La rue, elle est très difficile. Elle est inhabitable, la rue. C'est vraiment la catastrophe. Et surtout quand on est une femme, il y a les clochards, il y a de tout. Tu peux voir de tout. Moi, je ne dors pas la nuit. Je fais dormir mon fils. Il était encore petit, je le mets sur mes pieds. Il dort et moi, je suis réveillée parce que j'ai peur. J'ai mon téléphone, j'ai mon passeport avec moi, j'ai mes papiers avec moi. Si jamais il me vole, d'où je vais ramener mes papiers? Je ne pourrais pas ramener mes papiers. Je n'ai jamais attendu qu'un jour, je vais être à la rue. Je paie mon argent. Une fois, je suis partie chez une dame, j'ai habité avec elle. Elle m'a envoyé pour lui acheter le cannabis. Et moi, je ne savais pas. Elle m'a dit, vous allez partir chez le coiffeur, il va vous donner mon médicament et vous me ramenez. Elle me donne 100 euros, je vais là-bas et je lui ramène. Tous les jours, je ramène. Un jour, j'étais dans le tram. J'ai commencé à parler avec mon mari. Il m'a dit, tu étais où? Je lui ai dit, je suis partie pour chercher le médicament de la dame. Je lui ai dit, j'ai jamais vu un médicament dans une boîte à bijoux. Il m'a dit, toi, tu es vraiment une conne. Il m'a dit, jamais tu prends les choses sans voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il m'a dit, est-ce que tu veux partir en prison? Il m'a dit, ouvre-le, regarde qu'est-ce qu'il y a. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé que c'était du cannabis. Je lui ai ramené les courses qu'elle m'a demandé, le cannabis, et je lui ai dit, jamais tu m'envoies aux aubiers. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai menti. Je lui ai dit, il y avait la police, il y avait de tout là-bas. Je lui ai dit, jamais tu m'envoies. L'autre mercredi, elle m'a donné l'argent pour faire les courses et pour ramener, comme elle dit, les médicaments. Je lui ai dit, je ne vais pas. Elle m'a dit, tu sors dehors. Je l'ai payé de un jour et le lendemain, elle m'a mis dehors. Je lui ai dit, moi, je vais sortir, mais mon fils, il ne va pas sortir. Ça y est, je suis sortie, j'ai passé la nuit dans la rue et mon fils, il est resté à la maison. Je lui ai dit, tu fermes la porte à clé et tu ne lui ouvres pas la porte. Tu lui dis que je suis malade, je ne peux pas ouvrir la porte. Finalement, elle n'a pas passé pour mon fils. Déjà, elle nous a coupé les toilettes. On ne peut pas rentrer dans les toilettes. J'ai acheté un bidon d'eau de 5 litres. On a mis l'eau dans les bouteilles. Et lui, j'ai mis un sac dans le bidon d'eau. Et là, on fait notre besoin. On fait tout de là-bas. La cuisine, elle m'a interdit de rentrer dans la cuisine. La salle de bain, interdit de rentrer dans la salle de bain. D'accord, je suis restée, je fais mes besoins dans la chambre et je mets le sac et je le jette le lendemain. Et qu'est-ce qu'on mange? On mange de l'eau avec du pain et du fromage. C'est ça ce qu'on mange. Alors, quand j'ai passé la nuit dans la rue, elle m'a appelé l'assistante sociale de mon fils de l'école. Elle m'a dit, ton fils, il n'est pas à l'école. Je lui ai dit oui. Premièrement, il est malade. Et deuxièmement, la dame, elle m'a mis dans la rue. Et moi, je ne peux pas rentrer dans la maison. Elle m'a dit, tu es où? Elle est venue me chercher. Elle m'a dit, tu habites où? Je lui ai dit, j'habite à Les Hangars, à côté de la Cité du Vin. 300 euros que je paye. 300 euros. Moi, jamais j'étais avec quelqu'un et je ne paye pas les 300 euros. À chaque fois, même si la personne elle m'invite pour habiter avec elle, je lui dis, je vous paye et je rentre. Si je ne vous paye pas, parce que je sais qu'est-ce qui va y arriver. Et je fais le ménage, je fais à manger. Je suis comme une esclave à la maison. Ils invitent les gens, je dois faire le ménage, je dois faire le préparer à manger. Quand ils vont les personnes, je dois faire le ménage après les personnes, je fais tout. Alors, elle est venue l'assistante sociale, elle m'a dit, je vais partir et toi, je lui ai dit, non, moi, là, d'abord, je monte et après, toi, tu viens. Moi, je suis montée, j'ai dit à mon fils, ouvre-moi la porte, et il m'a dit, la porte, elle est ouverte. Je suis rentrée et après, l'assistante sociale, elle est venue, elle a frappé à la porte, elle lui a dit, j'arrive, elle a ouvert la porte, elle a trouvé l'assistante sociale, elle lui a dit, comment tu loues aux gens l'assistante sociale, elle est partie chercher. Est-ce qu'elle loue la chambre ou elle ne loue pas? Elle a trouvé qu'elle loue la chambre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue la chambre. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la clé dans la porte. Elle vole les affaires des gens. Et les gens, les pauvres, quand ils viennent, elle n'ouvre pas la porte, elle n'ouvre pas la porte, elle n'ouvre pas la porte. Et après, les gens, ils partent. Elle leur vole toutes leurs affaires. Et après, l'assistante sociale, elle lui a dit, déjà, tu loues la chambre dans ton appartement. Et j'ai beaucoup de gens qui font plainte de toi. Elle lui a dit, non, moi, je loue jamais. Moi, je l'ai entendu, je suis sortie. Elle lui a dit, c'est ma famille. Je lui ai dit, non, moi, je ne suis pas ta famille. Alors, l'assistante sociale, elle lui a dit, regardez, madame, si vous ne voulez pas que je vous ramène des problèmes, laissez la dame faire tout ce qu'elle veut. Elle vous a payé, laissez-la. Et moi, je vais lui trouver un loyer. C'est l'assistante sociale qu'elle m'a trouvé une colocation avec un Mauritanien. Ça y est. Je suis restée, j'ai fait le thé, j'ai mangé moi et mon fils et tout. Elle a rentré, elle a vu mon fils qu'il était très malade. Ça y est, après je suis partie habiter avec le Mauritanien. J'ai passé une galère ici en France que j'ai jamais vue de mes yeux. Tellement que j'étais gâtée, j'ai passé la misère. Maroc, je travaillais pas, mais j'avais mon père, le pauvre, qui est mort, il me ramenait de l'aide de partout. J'étais au Maroc, j'avais la maison avec mes parents, j'habitais, mon père, quand je me suis mariée, mon père, il m'a acheté un appartement, j'étais très, très gâtée avec mes parents, sauf le destin qui m'a ramenée ici. Parce que moi, je voulais venir en France et rester sans papier. J'ai jamais penser de venir en France et rester sans papier. Je ne l'ai jamais. Et depuis que j'étais petite, je viens en France. Quand j'étais petite, quand tu vas pour faire un papier ou quelque chose, c'est eux qui t'invitent de faire les papiers. Et je n'ai pas voulu faire les papiers. Mon père, il était actionnaire dans toutes les chambres commerciales. Si je voulais les papiers, je vais les avoir. Mais moi, je ne pensais pas à ça. Par exemple, comme maintenant. Ça fait 8 ans que je suis là. J'ai posé toute ma santé. Je travaillais comme une esclave. Je faisais tout. Et maintenant, puisque j'ai mes papiers, j'ai pas un aide, je l'ai pas. J'ai pas fait mes papiers avec Alif, je l'ai fait avec Asti. Je les remercie infiniment. Ils étaient vraiment des gens qui étaient très compétents. Et je leur souhaite, moi, la bonne santé et de tout ce qu'ils veulent. Vraiment, c'était une association qui est vraiment très, très gentille. Et quand ils voient que tu es en route de régulariser tes papiers, ils te le disent. Quand ils voient tout ton dossier, ils savent que tu es... C'est pas comme Alif. Alif, tu vas là-bas, même si tu n'es pas en route, c'est eux qui te dirigent à faire des choses. Et ces choses-là, ils t'emmènent dans un trou. pas d'affronter la porte et de sortir. Ils t'emmènent dans un trou. Mais Asti, vraiment Asti, ils sont super. J'ai un titre de séjour de 1 an et je viens de le renouveler. J'ai reçu mon récépissé et j'attends que je reçoive mon titre de séjour. J'avais pas de logement jusqu'à 2019. 2019, je connais une dame, une Française, qu'elle m'a rapporté beaucoup de bonheur. Je lui souhaite la bonne santé. C'est une fille qui est adorable, qu'elle s'appelle Sandy. C'est elle qu'elle m'a donné beaucoup de courage. Elle m'a aidé à faire tout. C'est elle que j'ai travaillé chez elle. Et quand j'ai travaillé chez elle, bouche à l'oreille. Elle dit, à chaque fois que quelqu'un lui demande, elle m'a ramené chez beaucoup de gens. Je faisais le ménage, le repassage. Ça y est, c'est ça ce que je faisais. Alors, après, quand elle m'a ramené chez une autre dame, la dame, elle m'a ramené chez son frère. Un jour, la sœur, elle est venue, elle m'a trouvée, elle m'a ramenée chez sa mère. Mais elle m'a promis d'avoir un appartement. C'est elle qu'elle m'a mis en contact avec le propriétaire, c'est lui qui m'a loué l'appartement. C'est un studio, mais quand même, j'ai une clé à moi. Je rentre et je sors, même si c'est petit pour moi et mon fils, c'est pas grave, j'ai un petit appartement. Maintenant, il est en première année après bac. Il fait l'informatique. Il veut être ingénieur d'informatique. Il fait les jeux vidéo et tout. Et quand il était petit, chaque année, il ramène un diplôme de compliment de l'école. Il était très gentil. J'étais convoquée pas mal de fois chez le directeur de l'école de Grand Parc, du collège du Grand Parc. Ils me disent que j'ai un bon élève, il est bien éduqué, il est très gentil et tout. Quand il est parti au lycée de Montesquieu, c'était la même chose. À chaque fois, je suis convoquée à l'école pour me dire, pour me remercier pour l'éducation de mon fils. Ça m'a donné une très, très grande joie au cœur. Je me suis dit, même si je suis sans papier, la joie qu'ils me donnent, ces gens-là, pour me remercier pour l'éducation de mon fils, c'est déjà... C'est pas les papiers, c'est une nationalité qu'ils me donnent. Alors, j'étais très contente pour lui. C'est ma fierté, j'ai ma fille qui est à Paris, elle travaille aussi. Tout le monde me dit qu'elle est bien éduquée et tout. Et j'ai le petit aussi, c'est la même chose. La maison de femme, je suis venue, ça fait presque 2-3 mois parce que je ne la connaissais pas, grâce à ma copine qu'elle me l'a montrée. Et je suis venue parce qu'elle m'a parlé beaucoup de cette association. Et je viens de rentrer, je n'ai pas encore vu grand-chose. Déjà que la première fois, j'ai beaucoup aimé. Et on est en route avec cette association. Elle m'a dit qu'ils m'ont donné pas mal de choses de l'aide. Et moi, puisque ça fait que 1 an que je suis régularisée, ils me disent que je n'ai pas le droit. Ma copine, ça fait 14 ans qu'elle est là. Elle a plus de chance que moi. Sauf moi, j'ai donné tout avant d'être régularisée. Malheureusement, ils ne comptent pas les jours. Depuis qu'on est rentré, ils ne comptent que le jour qu'on a régularisé. Ça, je le trouve que ce n'est pas normal. Et les autres jours qu'on était esclaves, on était comme des esclaves et on a posé tout notre santé. Maintenant, on n'a plus de santé. Comment on va faire? C'est maintenant, moi, que je veux de l'aide. Moi, si, par exemple, quand j'avais une bonne santé, ils me demandent de l'aide, je ne vais pas l'accepter. Mais maintenant, je veux une aide pour m'aider. Je gagne 640 euros. J'ai un loyer de 660 euros. D'où je vais ramener le reste? Je n'ai pas où ramener le reste. Déjà, ce que je gagne, il ne paie pas mon loyer. Mon fils, il a une aide. Il a une aide d'une association qui lui donne 100 euros par mois. Et je suis partie pour voir l'assistante sociale de la CAF. C'est elle. Maintenant, j'ai la PL. La PL, des fois 100 euros, des fois 150 euros, qui nous aide. C'est ça qui nous aide. C'est ça qui nous aide. Et vous avez vu maintenant, la vie, elle est trop chère. 100 euros, elle te fait pas manger, même pas une semaine. Ben, je galère. Heureusement que j'ai un petit appétit. Ce que je porte que pour mon fils. Ils m'ont dit que j'ai pas le droit maintenant, jusqu'à que je fais 5 ans après ma première régularisation. 5 ans. Moi, je sais ce que je vais vivre 5 ans. Je sais pas, moi. 5 ans, c'est beaucoup. Déjà maintenant, c'est la deuxième année. Il faut attendre 3 ans. 3 ans, pourquoi 3 ans? Il faut attendre. Et les autres années, où est-ce qu'ils sont partis? Que j'ai laissé ma santé, j'ai tout perdu dans les 8 ans que j'ai passé ici.
Est-ce que quand même tu trouves un peu d'espoir, des choses qui te font du bien dans tout ça?
Oui, je trouve beaucoup de choses. Déjà, je suis régularisée, c'est la première des choses. Je me sens un petit peu comme je suis libérée. J'attends maintenant d'avoir mon appartement, que jusqu'à maintenant, j'ai eu rien. Ça y est, c'est ça ce que j'attends. J'attends que l'appartement. Maintenant, je suis concentrée que sur l'appartement que j'attends. Parce que c'est tout petit. J'ai 9 mètres carrés. C'est trop petit. Je peux pas. Moi, je ne dors pas avec mon fils. J'ai pas où dormir. Moi, je dors chez une personne et le matin, je vais chez mon fils parce que j'ai pas où dormir. Comme mon fils, il est en vacances, où je peux rentrer? Je peux pas rentrer. Lui, il dort et moi, j'ai pas où me mettre. Il y a qu'un canapé et moi, j'ai un panier que j'ai mis là-bas. J'ai mis des draps et un canapé. Je le plie pour que le panier soit bien un petit peu gros. C'est là-bas que je m'assois. Et chaque fin d'année, je fais au CCA de Bordeaux. Je leur ramène 10 plateaux de gâteaux. Je ramène les gâteaux, pas ces gâteaux-là, je ramène les gâteaux à la crème. Je ramène des gâteaux comme ça. Je ramène de toutes les genres de gâteaux. Chaque année, sauf l'année passée. Cette année que je n'ai pas ramené parce que j'étais très malade. Je vis la fin de l'année, je suis très malade, j'arrive même pas à me lever la main. C'est là où et les gens que je leur ramenais les gâteaux, ils sont plus. Maintenant, il y a des nouveaux. Le jour où j'avais eu mon titre de séjour, j'ai ramené 50 boîtes de gâteaux. J'ai ramené à la préfecture. Il y en a des gens qui l'ont pris. Il y en a des gens, ils m'ont dit, on n'a pas le droit de le prendre. J'ai donné au chauffeur de bus. J'ai donné au CCA de Bordeaux. J'ai donné à Carrefour. J'ai donné à Auchan. Où je pars, je donne des boîtes de gâteaux. Il me dit, pourquoi tu nous donnes ça? Je lui dis, parce que je suis régularisée, je suis très contente. J'ai laissé personne. J'ai un grand cœur, mais malheureusement, mon cœur grand, il n'est pas parmi la France. Il n'est pas là. Je me suis habituée ici, j'ai mes copines ici, j'ai mes amis ici, j'ai tout ici. Qu'est-ce que je vais partir faire au Maroc? 8 ans, tout le monde t'oublie là-bas. Il n'y a personne là-bas maintenant. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Chaque jeudi, je m'achète 10 baguettes. Je mets un tagine de pommes de terre avec la viande hachée. J'ouvre les baguettes. Il y a quelqu'un qui va à métro, je lui demande de me ramener 3 packs de coca. Il me ramène 3 packs de coca. J'ouvre les baguettes, je mets le tagine dedans, dans les 10 baguettes. Je les coupe en deux, je les mets dans des papiers aluminium. Avec une barre de coca, et je le mets dans mon chariot et je sors. Donc, tous les gens qui dorment dans la rue, je leur donne une demi-baguette et je leur donne un coca. Chaque jeudi, je le fais. Maintenant, puisque je dors chez la dame, je le prépare et c'est mon fils qui le ramène. Ça me coûte presque de 30 euros. Ça me coûte. Toujours, je laisse 30 euros de côté. À chaque mois, je laisse 30 euros de côté. Et chaque jeudi, je le fais. Une fois, J'avais même pas pour acheter une baguette de 0,79. Je sors dans la rue et j'étais triste. Je pars, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 100 euros. Je te jure, je trouve 100 euros. J'ai dit bismillah et je l'ai pris. Je l'ai pris. J'ai enlevé 50 euros pour les gens et j'ai pris 50 euros. Moi, j'étais dans la rue. Je sens les gens qui dorment dans la rue. Moi, le jour où j'aurai ma maison, je te jure, je ramène tous les gens qui dorment dans la rue, je leur donne à manger. Parce que je connais qu'est-ce que ça veut dire la rue. La rue, elle n'est pas facile pour les gens. Il y en a des Belgares et tout, ils te disent salam alaikum. Ils ne sont pas des musulmans, ils donnent la main, ils te disent salam alaikum pour passer pour nous les musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Moi, une fois, j'ai trouvé une dans l'arrêt de bus. Elle m'a dit, salam alaikum, est-ce que vous pouvez me donner? Je lui ai dit, si vous me dites, quand on meurt, qu'est-ce qu'on dit en arabe, je vous donne 100 euros. Elle s'est évadée, elle est partie. Il y avait l'arrêt de bus qu'ils ont tous commencé à rigoler. Je lui ai dit, mesdames, ceux-là, ils se prennent pour des musulmans, pour nous, les musulmans. Mais elle n'est pas musulmane. Elle a appris, salam alaikum, elle le dit. Comme les gens, les terroristes, qu'ils disent Allahu Akbar, ils sont terroristes. Ce ne sont pas des musulmans. Ils ont appris le mot, ils le disent, ils se tuent. Ils nous prennent pour nous les musulmans qui l'ont fait. Mais ce n'est pas nous qui le fait. Parce que déjà, nous, dans l'islam, on ne peut pas tuer même pas un cafard. On ne peut pas le tuer. Comment on va tuer un être humain? On ne peut pas le tuer. Même quand je prie pour moi, je ne prie pas pour moi. Je prie pour moi et je prie pour tout le monde. Je suis comme ça. J'ai des rêves. Par exemple, je veux faire mon livre. J'aimerais bien, mais je ne sais pas qui pourrait m'aider pour le faire. J'arrive pas à trouver quelqu'un qui pourrait me le faire. J'aimerais bien que quelqu'un m'aide pour faire mon livre parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Si ma vie est montée en film, je sais bien qu'ils vont gagner beaucoup d'argent avec ma vie. Et j'aimerais bien que quelqu'un m'aide pour faire mon livre.
See?